Un président incompétent, à morale inconstant, c'est le portrait au vitriol que signe un haut responsable de la Maison-Blanche contre Donald Trump. Tribune anonyme et rarissime contre un président en exercice. Elle a été publiée hier soir par le New York Times. Colère de Donald Trump, attaqué jusque dans son propre camp par ses conseillers à quelques semaines des élections législatives de mi-mandat.
Et puis, à la une également, des négociations de paix pour le Yémen aujourd'hui à l'ONU. Les deux camps yéménites face à face avec la coalition de pays du Golfe, emmenés par l'Arabie Saoudite d'un côté, les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran de l'autre. En 3 ans et demi de conflit, 10 000 morts, plus de 3 millions de déplacés.
En France, l'exécutif veut tourner la page d'un été calamiteux, train de réforme aussi soutenu qu'avant, et la loi Pacte qui vient de commencer son examen en commission spéciale à l'Assemblée nationale.
Et puis, dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, 5 ans après la mort de Clément Méry, quel est le bilan de la dissolution de l'ultra-droite? On posera la question à un journaliste spécialiste de l'extrême droite, Frédéric Charpier.
Sa colère est à la hauteur des attaques proférées contre lui. Donald Trump a vivement réagi hier soir à la publication par le New York Times d'une tribune anonyme signée d'un haut responsable de son administration. Un texte hors du commun intitulé « Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump », témoignage de l'intérieur même donc de la Maison-Blanche, dénonçant la moralité du 45e président des États-Unis, son inconstance politique. « Trahison », a répondu Donald Trump dans un tweet, et de dénoncer une fois de plus le rôle des médias hier soir à la télévision sur Fox News.
Quand je ne serai plus président, c'est-à-dire, j'espère, dans 6 ans et demi, le New York Times, CNN et tous ces médias bidons, ils n'existeront plus parce qu'ils n'auront plus rien à écrire et plus aucun intérêt.
Donald Trump hier soir à la Maison Blanche, très agacé donc par cette tribune anonyme contre lui émanant de sa propre administration, comme le certifie le New York Times. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Catherine.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Washington et vous avez lu donc ce texte accablant contre Donald Trump où la résistance décrite consiste, je cite, à tenter de faire ce qui est juste, même quand Donald Trump ne le fait pas.
Oui, accablant, vous avez raison, c'est le bon terme. Que dit celui ou celle qui est présenté par le New York Times comme un haut responsable de cette administration Trump? Eh bien qu'avec d'autres, il s'est engagé à faire tout ce qu'il pouvait pour préserver les institutions du pays, tout en contrecarrant les impulsions malencontreuses de Donald Trump. Vous voyez un peu la force des mots utilisés. L'auteur de la tribune décrit aussi un président amoral, mesquin, impétueux, inefficace et raconte une présidence marquée par le chaos. Mais les Américains doivent, je cite, être rassurés en sachant qu'il y a des adultes à la Maison-Blanche. Ce haut responsable affirme aussi que plusieurs conseillers ont songé un temps à invoquer le 25e amendement de la Constitution pour engager une procédure de destitution de l'actuel président, mais qu'ils ont renoncé pour ne pas créer de crise constitutionnelle.
Une Maison Blanche donc en plein chaos, vous le disiez Grégory, un comportement erratique de Donald Trump que ses conseillers tentent de contenir. Cette tribune publiée dans le New York Times correspond à ce qui est aussi décrit dans un livre, celui du journaliste d'investigation Bob Woodward, Fear, la peur, qui doit paraître la semaine prochaine et dont les bonnes feuilles ont déjà été publiées hier par le Washington Post. À 2 mois des élections législatives de mi-mandat, Donald Trump est donc attaqué de toutes parts, jusque dans son propre camp, Grégory.
Oui, parce que le ou la signataire de cette tribune dans le New York Times se présente comme un républicain, pas un adversaire démocrate, quelqu'un qui d'ailleurs dans le texte défend quelques-unes des réformes menées à bien par l'administration. La critique vient donc de l'intérieur et un employé de la Maison-Blanche racontait hier soir que dans les couloirs présidentiels, c'est un peu comme un film d'horreur quand soudain on réalise que la menace vient de l'intérieur de la maison. Donc oui, c'est bien quelqu'un du camp de Trump qui dit qu'il est dangereux pour le pays. Ajoutez à cela la description d'une présidence calamiteuse qu'on peut lire dans le livre de Woodward. Ajoutez à cela l'isolement de Trump samedi dernier lors des obsèques de John McCain, alors que toute la classe politique et tous les républicains étaient réunis pour les funérailles du sénateur. Donc un Trump de plus en plus seul, qui même au sein de son administration est entouré d'au moins un traître à ses yeux. C'est pas une bonne configuration pour aborder les élections de mi-mandat dans 2 mois, ça c'est certain. En revanche, Trump va sans aucun doute pouvoir aussi utiliser ce nouvel épisode de la tribune anonyme pour repartir en guerre contre les médias, et ça généralement ça plaît à sa base électorale. Là, une tribune anonyme en quelque sorte, c'est du pain béni béni pour attaquer le New York Times qu'il qualifie de pathétique. Et d'ailleurs, dans son dernier tweet, il y a moins de 2 heures, envoyé donc en pleine nuit, le président américain écrit « Je vide le Marigot », allusion à Washington, et le Marigot réplique « Mais ne vous inquiétez pas, on va gagner ». Il est possible aussi que cette tribune anonyme, encore une fois, donne des arguments à Trump pour remobiliser ses supporters sur le thème « Vous voyez, tout le monde est contre moi ».
Grégory Phillips, merci pour ces explications. Vous étiez en direct de Washington pour France Culture. Donald Trump qui affirme par ailleurs n'avoir jamais évoqué avec le chef du Pentagone l'assassinat du président syrien Bachar el-Assad, contrairement à ce que rapporte le livre du journaliste d'investigation Bob Woodward. Dans la guerre en Syrie encore, les États-Unis disent observer de près la situation à Idlib, dernier grand bastion rebelle que le régime de Damas veut reprendre avec l'aide de Moscou. Sommet décisif demain à Téhéran sur le sujet entre les présidents iraniens, turcs et russes, parrains des principaux belligérants en Syrie. 3 millions de civils vivent dans la crainte d'une offensive du régime à Idlib. Les civils pris au piège des combats, c'est le quotidien au Yémen, des bombardements incessants et plus de 3 millions de déplacés en près de 4 années de guerre. L'Arabie Saoudite, qui dirige une coalition militaire pour aider le pouvoir yéménite gouvernemental face aux rebelles houthis, soutenus eux par l'Iran, l'Arabie Saoudite dit avoir intercepté hier un missile balistique dont les débris ont fait 26 blessés, dont 2 enfants. Alors que la moitié de la population yéménite a besoin d'aide humanitaire pour manger ou pour tenter de survivre face au choléra, des négociations de paix se tiennent à partir d'aujourd'hui à l'ONU. C'est la première fois depuis 2 ans que les deux camps yéménites se retrouvent dans un même bâtiment, en l'occurrence à Genève, Eric Biegala.
Et à vrai dire, si l'on en croit Martin Griffiths, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, qui présidera la réunion, il ne s'agira même pas de négocier. C'est ce qu'il précisait hier après-midi à Genève. Il s'agira plutôt d'une sorte de reprise de contact.
This is not formal negotiation.
Ce ne seront pas des négociations.
We're talking about consultations.
On parle plutôt That's de consultations, une formule beaucoup plus souple qui peut permettre pas mal de choses. J'espère que les deux parties pourront s'asseoir dans la même pièce. Elles n'y sont pas obligées, comme dans une négociation formelle, mais elles pourront le faire. Et dans ce cadre plus informel, il faudra mettre au jour les priorités des deux camps, qu'il s'agisse du problème de fond ou de mesures de rétablissement de la confiance entre eux.
Ces fameuses mesures de rétablissement de la confiance, c'est probablement ce qui pourrait sortir de plus concret de ces pourparlers. Et Martin Griffiths relève qu'une mesure en particulier reçoit l'assentiment des deux camps.
Celle qui m'a été demandée instamment par les chefs des deux parties au conflit, c'est la libération des prisonniers de guerre. Ce qu'on pourrait faire cette semaine, par exemple, c'est se mettre d'accord pour la faire ensemble. Par définition, un échange de prisonniers demandera la coopération des deux parties.
S'accorder au moins sur le principe d'un échange de prisonniers, ce serait sans doute ce qui pourrait sortir à minima de ces pourparlers. Certains imaginent davantage, on parle d'un statut neutre pour le port d'Odeida, lequel pourrait être géré par les Nations Unies, les combattants des deux parties évacuant complètement la zone, actuellement une ligne de front. Un objectif qui paraît pourtant très incertain, vu le degré de défiance entre les adversaires. Les discussions de Genève sont censées durer 3 jours.
Vous écoutez les Matins de France Culture, il est 7h08, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. L'exécutif entend tenir le cap des réformes.
Calendrier précisé hier après un conseil des ministres et un séminaire gouvernemental, annonce donc de 2 plans très attendus. Le plan hôpital tout d'abord, qui sera dévoilé le 18 septembre prochain, et puis le plan pauvreté retardé pour cause de mondial de football cet été sera lui présenté dans 1 semaine. Un plan pauvreté regardé de près par les associations qui s'inquiètent déjà de coupes budgétaires, notamment dans le domaine de l'hébergement d'urgence, moins 57 millions d'euros depuis 4 ans. Le train de réforme de l'exécutif, on y revient dans le journal de 7h30. Et parmi ces réformes, il y a l'examen de la loi Pacte qui a commencé hier en commission à l'Assemblée nationale avec l'audition du ministre de l'économie Bruno Le Maire et de sa secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphan, une commission spéciale créée pour l'occasion tant ce texte est vaste et transversal, 1 millier de pages, 73 articles sur des sujets très disparates mais qui concernent tous l'entreprise. Agir en leur faveur, c'est la philosophie du texte qu'ont défendu les ministres devant les députés. Catherine Pétillon.
Toujours plus de dépenses publiques n'est pas la bonne réponse aux défauts de notre modèle économique, a expliqué Bruno Le Maire devant la commission spéciale, défendant l'autre voie choisie avec ce texte, celle d'un renforcement de l'entreprise, des PME et du tissu de production, avec en toile de fond une redéfinition du rôle de l'État, Bruno Le Maire.
Et nous aurons, je le sais, un débat vivant là-dessus. Tant mieux, parce qu'il est temps que chacun se positionne là-dessus. Moi, je crois à un État garant de la protection de l'ordre public économique. Aux entreprises, la création de richesses, la création d'emplois, mais aussi la transformation de notre vie quotidienne.
Adapter l'entreprise et le modèle économique au XXIe siècle, voilà un objectif sur lequel tout le monde s'accorde. Mais ce texte marquera sans nul doute les divergences quand on voit pour y arriver. Du côté de la nouvelle gauche, c'est pour les salariés que les mesures sont insuffisantes. Boris Vallot.
Nous vous proposerons de reconnaître les salariés comme une réelle partie constituante de l'entreprise en renforçant substantiellement le nombre d'administrateurs salariés. De donner préférence aux stratégies industrielles sur les stratégies actionnariales, pour donner la priorité à l'investissement productif et au salaire sur la distribution de dividendes.
François Ruffin de la France Insoumise s'est emporté, lui, contre la philosophie même du texte.
Il s'agit de gagner un point de croissance, je lis, j'entends. Mais vous étiez déjà aux côtés de Nicolas Sarkozy pour aller arracher ce point de croissance avec les dents. Et je pense que j'étais dans le ventre de ma mère et Valéry Giscard d'Estaing nous proposait déjà d'aller chercher ce point de croissance. Comment ? Par la privatisation, la Française des Jeux, les aéroports, Engie, comme on le fait depuis 30 ans sans discontinuer. Est-ce que c'est ça la nouveauté ?
Les membres de la commission commencent à débattre aujourd'hui des 2200 amendements déposés pour aboutir au texte qui sera débattu en séance publique à l'Assemblée à partir du 24 septembre.
11 prévenus et un public a priori très nombreux. Le procès des rappeurs Booba et Kaaris aujourd'hui au tribunal de Créteil en région parisienne. Ils sont jugés avec 9 de leurs proches pour une bagarre collective à l'aéroport d'Orly le 1er août dernier. Cette bagarre avait causé de nombreux retards de vol et 50 000 euros de dégâts selon Aéroports de Paris. Une bagarre filmée par des passagers éberlués, bagarre qui avait fait le tour ensuite des réseaux sociaux. Les deux rappeurs qui ont fait presque un mois de détention provisoire comparaissent libres. Ils doivent maintenant s'expliquer devant la justice, Cécile de Kervas-Doué.
Il faudrait rappeler aux gens que ce n'est pas un concert qu'ils viennent voir dans ce tribunal. Le bureau du procureur s'attend pourtant à la même cohue que lors de la comparution immédiate des deux rappeurs début août. Car la bataille du patron du gangsta rap français, Booba, et de son ancien partenaire, Kaaris, fait le miel des réseaux sociaux depuis 5 ans et est suivie par pas moins de 5 millions d'abonnés. Qui pèse le plus dans le marché du rap ? Qui a vendu le plus d'albums ? Quel artiste soutient qui contre tel autre artiste ? Par chansons interposées, tweets rageurs, commentaires Instagram ou interviews, les deux pères de famille de 41 et 38 ans mettent en scène leurs différends de cours de récré à coups d'insultes crues, racistes, sexistes et vulgaires. Et c'est la marque de fabrique de ce type de rap, copié des États-Unis et qui fait florès en France à en croire les millions d'albums vendus par les deux artistes. Mais en France, comme outre-Atlantique, ces battles, ces clashs institutionnalisés ne restent pas non plus toujours virtuels. Et c'est ce qui s'est passé à Orly. Les deux rappeurs, se rendant pour un concert dans la même rue, de la même ville, à Barcelone, se sont croisés en salle d'embarquement avec 7 de leurs proches et en sont venus aux mains, se rouant de coups de poing parmi les hurlements des voyageurs. Qui a commencé à porter les coups ? Chaque clan accuse l'autre. Un tweet de Booba condamnant une justice à deux vitesses durant sa détention provisoire ne va pas non plus apaiser l'ambiance et a encore de quoi attirer des spectateurs. Les deux rappeurs et leurs équipes encourent néanmoins 10 ans de réclusion pour violence aggravée.
Le temps de ce jeudi 6 septembre va hésiter entre éclaircies, nuages et averses. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 19 et 24 degrés sur une grande partie de l'Hexagone, jusqu'à 27 en plaine d'Alsace, jusqu'à 29 près de la Méditerranée, Guillaume Hernet.